Élection présidentielle, voter Nathalie Arthaud pour faire entendre le camp des travailleurs. Après la primaire de la droite, celle de la gauche occupe la scène médiatique jusqu'au 29 janvier. Les sept candidats, dont cinq ont été ministres de Hollande et partagent à ce titre la responsabilité de sa politique anti-ouvrière, tentent de se distinguer et de faire illusion auprès des classes populaires. Montebourg parle de la fiche de paye, Hamon du revenu universel, Valls du revenu décent. Campillon essaye de vendre son bouclier fiscal. Les candidats du PS sont concurrencés sur leur droite par Macron, qui s'y voit déjà, et sur leur gauche par Mélenchon. S'il s'adresse lui aussi aux travailleurs, dénonçant parfois leur sort avec virulence, seule leur voix l'intéresse. Mélenchon a placé sa campagne sous le slogan, citation, La France insoumise, fin de citation. En prétendant défendre, citation, les intérêts de la France, fin de citation, il se soumettra inéluctablement à ceux des capitalistes français. La seule candidate qui s'affirme communiste et qui fera vraiment entendre le camp des travailleurs dans cette élection présidentielle est Nathalie Arthaud. Même si elle est ignorée de tous les principaux médias, sa campagne est bien lancée. Nous reproduisons ci-dessous un extrait de son intervention au meeting d'Annonay, Ardèche, le 18 janvier, dans lequel elle développe le programme de classe qu'elle propose aux travailleurs conscients d'approuver.
Et faire entendre nos intérêts de salariés, de chômeurs, de retraités, à l'opposé de la politique patronale, affirmer nos revendications, nos objectifs, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Parce qu'en réalité, les jeux sont faits. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense. Celui qui sortira des urnes en mai sera un ennemi des travailleurs. Pour nous, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisque l'on nous donne la parole au premier tour, eh bien il faut la prendre pour s'exprimer, pour mettre en avant nos préoccupations de travailleurs. Ne laissons pas le monopole de la parole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Faisons-nous entendre. Nous avons une politique à défendre, une politique indépendante, une politique de classe, un programme.
Pour éradiquer le chômage, un travail et un salaire pour tous.
Et le premier point de ce programme, eh bien, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas et de leur carnet de commandes. Des aléas du marché et des carnets de commandes, donc des patrons. Nous ne sommes pas des machines qu'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Et il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez PSA. PSA, Peugeot Citroën, a réalisé sur les 18 derniers mois 2,5 milliards de bénéfices. Et PSA a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année. Et Sanofi a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore aujourd'hui 650. Et ça, on peut le dire et on peut faire le compte dans toutes les grandes entreprises. Oh, ils se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciement. Maintenant, le mot licenciement, c'est devenu un mot tabou. Mais avec toutes ces suppressions d'emplois, eh bien, ils font autant de chômeurs de plus. Alors, il faut commencer par arrêter l'hémorragie et par stopper tous ces grands fabricants de chômage. Alors bien sûr, je n'oublie pas non plus les salariés des petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent des grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes soient mis à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites et moyennes entreprises, qu'ils contribuent à étrangler tous les jours. Et puis parallèlement, puisqu'il y a 6 millions de chômeurs, eh bien il faut bien sûr créer des millions d'emplois. Il faut en créer pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement, en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, dans le privé mais aussi dans le public, la charge de travail a été accrue. Les horaires de travail, auxquels il faut d'ailleurs ajouter le temps de transport, de plus en plus long maintenant, eh bien tous ces horaires sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois, avec un salaire complet, bien sûr. Et il faut faire exactement l'inverse de ce que la plupart des grandes entreprises font aujourd'hui, ce que Renault fait en annonçant son deuxième plan de compétitivité, c'est-à-dire vers l'inverse, au lieu de concentrer le travail sur de moins en moins de salariés, en imposant des heures supplémentaires, des samedis travaillés obligatoires, eh bien il faut répartir le travail et embaucher en proportion. Et puis, regardez aussi ce qui se passe avec cette épidémie de grippe. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières, d'aides-soignantes? Est-ce qu'il y a trop de personnel dans les hôpitaux? Regardez ce grand gâchis qui est l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million à un loyer abordable pour un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'ingénieurs? Il y a nombre de besoins à satisfaire dans cette société. Et il y a donc autant d'emplois à créer. Certains nous expliquent qu'avec la modernisation des moyens de production et des gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Au lieu de créer le chômage pour les uns et les surcharges de travail pour les autres, les robots et les gains de productivité pourraient soulager les salariés et permettre au contraire de baisser les cadences et de baisser le temps de travail pour tous. Mais cela suppose que l'on impose nos intérêts et que les profits passent après nos emplois et après nos salaires. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'il y aura bientôt, mais 7, 8 millions. La répartition du travail entre tous sont des objectifs nécessaires pour les travailleurs. Et ce sont même des perspectives vitales pour l'ensemble de la société. Parce que le chômage est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, il pousse à l'individualisme et à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et la déshumanisation de la société. La lutte contre le chômage est une condition de la survie de la société.
Pas un salaire à moins de 1800 euros net, 300 euros d'augmentation pour tous.
Et un second point de notre programme, c'est l'augmentation des salaires et des pensions de retraite. Les principaux candidats, ceux qui sont donc susceptibles d'accéder à l'Élysée et qui monopolisent la parole politique, comme vous le constatez, eh bien ils nous expliquent tous qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter les salaires. Le Pen, par exemple, explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Parce qu'elle ne veut surtout pas, comme elle dit, créer des difficultés au patronat. Mais les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors nous reprenons une des revendications qui est parfois avancée par la CGT, d'élever le SMIC à 1800 euros par mois. La moitié des salariés gagnent moins de 1800 euros net par mois dans ce pays. 1800 euros net, c'est le salaire médian qui divise donc 50% des travailleurs touchent plus, 50% touche moins. Eh bien oui, nous pensons qu'aucun salaire ne devrait être inférieur à 1800 euros net. et il faudrait augmenter de 300 euros tous les salaires. Et ce ne serait que du rattrapage après plusieurs décennies de blocage des salaires qui a démoli progressivement le pouvoir d'achat de tous. Il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit du logement, et parfois c'est plus. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable, il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 4 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et il faut encore payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. À la fin, eh bien, il reste moins d'une vingtaine d'euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante ou encore quelques sorties. L'accès aux loisirs et à la culture. Et avec des enfants, c'est encore bien plus serré. Alors, 1800 euros net, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Quant au... C'est le minimum, quand même. Et je voudrais dire que, par rapport aux minima sociaux, et par rapport au RSA, ou par rapport à l'allocation adulte handicapé, eh bien, nous pensons qu'ils doivent être transformés en salaire. Parce que tout le monde doit avoir le droit, je l'ai déjà dit, à être intégré à une activité utile, doit avoir accès à un travail et à un salaire. Je l'ai déjà dit, ces 1800 euros ne sont qu'un rattrapage. Je tiens à le rappeler, il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1150 euros, était à 1000 euros, il y a 10 ans. Entre-temps, savez-vous de combien ont augmenté le salaire des PDG en 10 ans? 65%. Alors oui, il nous faut cela. Et pour que cette hausse de salaire soit durable, eh bien, il faut qu'elle suive les augmentations. Il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celle des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, celle de cette année, à celle de l'année précédente, pour comprendre que l'inflation, bien sûr, elle continue. Alors, nos salaires et nos pensions de retraite, eh bien, ils doivent suivre. Alors, de bonnes âmes, souvent bien payées, et qui vivent avec bien plus de 1800 euros par mois, m'ont déjà expliqué que ce programme était complètement utopique et qu'il forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Je parle de 1800 euros par mois, et on me parle d'utopie. C'est donc de l'utopie que d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro. C'est de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer ses études à ses enfants, le permis. Mais prenez Carlos Ghosn, dont j'ai déjà parlé, et qui touche 54 000 euros par jour. Prenez les Tavares, tous les PDG de ces grandes entreprises. Prenez les grands actionnaires qui empochent des centaines de milliers d'euros par an. Tous ces gens-là, ils ne vivent pas dans l'utopie. Ils vivent dans le monde d'aujourd'hui, dans notre monde. Alors, dire que 1800 euros par mois, c'est de l'utopie, c'est un choix de classe. Et s'il y a une utopie dans cette affaire, eh bien c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Parce que pour y parvenir, eh bien il faudra renouer avec les luttes collectives et il faudra imposer un rapport de force avec le patronat.
Contrôle des travailleurs sur les entreprises.
La société est riche, très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune, accumulée au détriment des travailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. La transparence faite par les travailleurs. Parce que le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et même s'il est de bon ton pour tous les politiciens de parler de transparence, de dénoncer l'évasion fiscale, il continue de défendre le secret des affaires et d'interdire aux salariés de divulguer les informations dont ils disposent sur les comptes des entreprises. En avril dernier, les députés européens du Parti Socialiste, de l'UDI, du MoDem, de la droite et du Front National se sont tous retrouvés pour voter ensemble la directive européenne sur la protection du secret des affaires. Et pour cause, Si les travailleurs avaient accès à toutes ces comptabilités, eh bien, ils mesureraient l'escroquerie qui consiste à parler du coût du travail, par exemple. Parce que le travail ne coûte pas au patron, il leur rapporte. Le moindre centime que la bourgeoisie gagne, lui, vient de l'exploitation du travail. Les millions d'euros que dépensent les riches pour maintenir leur train de vie de parasite sont extraits de la peine et de la sueur des travailleurs. Alors, en levant le secret bancaire et commercial, eh bien, on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs, de communiquer les informations dont ils disposent. Il y a bien des salariés révoltés par les agissements de leur direction, parce qu'ils savent qu'elles sont contraires aux intérêts des travailleurs, de la population ou de l'environnement. Ils sont les premiers souvent à tirer la sonnette d'alarme, parce qu'ils sont aux premières loges. Alors il faut leur donner les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient, sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Cette mesure est un objectif essentiel, parce qu'il modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs, en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts.
Un programme de classe.
Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui doit nous orienter pour nos combats quotidiens. Et c'est un programme de survie pour les couches populaires. C'est un programme qui découle de nos besoins. Et c'est aussi le plus radical. Parce que nous sommes les seuls à nous engager totalement du côté des travailleurs. Parce que, contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Nous la combattons. Et nous sommes prêts à la combattre jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à l'exproprier en réquisitionnant les grandes entreprises. Puis parce que, contrairement aux autres candidats, nous ne considérons pas la compétitivité, le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous pouvons défendre ces intérêts vitaux pour le monde du travail parce que nous sommes communistes révolutionnaires.
Le vote est le parti qu'il manque aux travailleurs.
Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et un vote de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat, il doit commencer dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans la bagarre sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être convaincu de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat des idées et dans le combat politique. Le premier tour de cette élection présidentielle nous donne l'opportunité d'avancer dans cette direction-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent après les élections, car les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts au moment de ces échéances électorales. Ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par les gouvernements, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Eh bien, cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts irréconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève, en manifestation, eh bien cela participe de la construction d'un parti. Alors, votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire un parti pour les travailleurs.
Le 18 janvier 2017.